Jésus-Christ, merci pour ton amour immense, Seigneur, et d'avoir donné ton Fils pour nous, Seigneur, d'avoir payé pour l'ensemble de nos péchés, passés, présents, futurs, de savoir que, Seigneur, tu ne gardes pas, Seigneur, nos péchés comme un compte, Seigneur, mais tu les effaces par le sang de Jésus. Merci. Merci, Père, pour ta communion, pour la présence de ton Esprit et pour cette relation que nous avons avec toi. Merci de ta parole, Seigneur, qui est la vérité, Seigneur. Et Seigneur, ta parole est là pour nous sanctifier, pour nous transformer, pour révéler aussi, Seigneur, et pour juger, pour transformer, pour Seigneur, bénis-la, Seigneur, s'il te plaît. Fais-nous du bien, Seigneur, et continue à faire en sorte, Seigneur, qu'elle transforme nos vies, s'il te plaît, Seigneur. Merci de m'aider, de me donner ta grâce encore et encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans notre passage, on va voir plusieurs critères qui permettent de reconnaître quelqu'un qui est digne de foi. Alors, en 2017... il y a un Américain, assez jeune, peut-être 35 ans, qui avait beaucoup de succès dans les affaires. Il avait réussi à faire une sorte de carte de crédit qui fonctionnait bien. Et il a voulu se lancer dans un grand festival de musique pour l'élite, la jeunesse qui est dans l'élite de ce monde. Pour vous donner une idée, le ticket d'entrée du festival, c'était 12 000 $. Donc voilà, on est plus dans les mêmes sphères là. Donc, c'était 3 jours. On promettait une arrivée en jet privé sur une île des Bahamas, une belle île. En fait, c'est l'île de Pablo Escobar, celui qui est jugé en ce moment aux États-Unis. Eh bien, les propriétaires étaient en train de négocier pour que ça se fasse. Et donc, on arrive là sur l'île de Pablo Escobar. C'est magnifique. Les images sont éblouissantes. Alors, il n'y avait rien sur l'île, mais on promet qu'il y aura villa ou tente luxueuse, 5 étoiles, etc. Enfin, le luxe, le grand luxe pour ce moment, avec des artistes très connus qui viendront chanter, etc. et faire ce spectacle. Alors, on a fait une publicité savamment orchestrée sur les réseaux sociaux. Alors, vous savez, les jeunes aujourd'hui sont très friands des réseaux sociaux. Et donc là, c'était bien fait, quoi. Avec des mannequins, avec des images, etc. En très peu de temps, ils ont vendu 95% des places, en un rien de temps. Ça a marché vraiment très fort. Mais en fait, ils n'avaient encore rien vraiment planifié. Et après, ils sont rentrés dans la planification. Et ça a été un désastre complet. L'île, ils n'ont pas pu la voir, ils ont dû se rapatrier ailleurs, un endroit qui n'était plus du tout paradisiaque. Enfin, c'était un désastre, un naufrage complet. Alors, c'était une expérience inoubliable pour cette jeunesse dorée. Là, c'était vraiment inoubliable puisqu'il n'y avait pas d'artistes présents. Ils ont dormi dans un... pratiquement comme un camp de réfugiés, c'était des tentes les unes à côté des autres, il y avait peu de nourriture, peu d'eau, c'était une catastrophe complète. Et donc cet Américain est aujourd'hui en prison. Et le problème c'est quoi? C'est que en fait, des milliers de gens, il y a eu beaucoup de gens, à la fois ceux qui ont acheté les billets, mais aussi ceux qui ont suivi cet homme qui a lancé la chose. Il l'a fait avec un rappeur très connu. Mais c'est des investisseurs qui ont donné beaucoup d'argent. C'est plein d'organisateurs, des gens serviables, des centaines d'ouvriers aussi, parce qu'ils ont employé plein de gens des Bahamas. Plein de gens qui n'ont jamais payé. Mais ils ont fait confiance, ils ont placé toute leur confiance dans un homme qui était très charismatique, et qui savait vendre la chose, en fait. Il était convaincant. Il vous vendait du sable dans le désert. Donc, c'était... voilà. Faire confiance à quelqu'un qui n'est pas digne de foi. C'est ça. Il n'avait jamais fait de spectacle comme ça, jamais fait de festival comme ça. Il n'était pas du tout à sa place. Mais ça a été une catastrophe parce qu'on lui a fait confiance. Tout ça pour illustrer que dans notre évangile de Jean, les Juifs cherchaient à discréditer Jésus et ils disaient de lui, il n'est pas digne de foi. On ne peut pas lui faire confiance, ce n'est pas ce que vous croyez, ce Jésus-là. La preuve, regardez, il est en train de guérir des gens le jour du sabbat. Il n'est pas digne de foi. Qu'est-ce qui permet de voir si un homme est digne de foi? Quels sont les critères? Est-ce que Jésus était digne de foi, en fait? Est-ce que Jésus était digne de foi? Et en reprenant notre texte, on peut dire que oui, Jésus était digne de foi, vraiment. Alors, regardez verset 30, déjà, parce qu'il ne cherchait pas sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'avait envoyé, c'est-à-dire la volonté de son Père. Et c'est certain que ça, c'est un des critères vraiment pour faire confiance à quelqu'un, hein, quand on parle, nous, en termes spirituels, hein, quand on sait que quelqu'un cherche tout le temps à faire la volonté de Dieu, ben ça, c'est rassurant. C'est vraiment rassurant. Mais le problème, c'est que ces accusateurs disaient que Jésus n'était pas dans la volonté de Dieu. Ils disaient, mais non, il ne fait pas la volonté de Dieu. Alors, c'est vrai que c'est difficile. Quelqu'un dit, je fais la volonté de Dieu. Comment vous pouvez être sûr à 100% qu'il est en train de faire la volonté de Dieu? Il peut y avoir un petit doute. Hein. Et donc, c'était la vérité. Lui, Jésus faisait la volonté du Père. Mais en fait, ce n'était pas un argument valide qui donnait suffisamment de crédit. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, regardez, verset 31. « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Mon témoignage n'est pas vrai. » Et c'est vrai que ce n'est pas le fait de se mettre soi-même en avant qui donne du crédit à une personne. Ça ne donne pas le crédit. On peut toujours dire « Ah ben moi, je suis comme ça. » Ah ben moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah moi, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. C'est bien, mais ce n'est pas ça qui donne le crédit, en fait. Ce n'est pas ça qui inspire confiance. Ce n'est pas un témoignage valable, parce que y en a beaucoup qui peuvent finalement se vendre eux-mêmes, hein, et puis au final, ce n'est pas ça du tout. Regardez 2 Corinthiens 11, 17 à 18. 2 Corinthiens 11, 17 à 18. On lit ici que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Et ce n'est pas celui qui se vend, hein, qui est approuvé, celui qui se met en avant, mais c'est celui que le Seigneur recommande. C'est celui-là qui est approuvé. Et Jésus a été recommandé du Père. C'est une certitude. Comment? Eh bien, de plusieurs manières. C'est ce qu'on va voir. Donc, on va voir ces différents éléments qui montrent qu'il était vraiment recommandé du Père. D'abord, par Jean-Baptiste. Regardez versets 32 à 33. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean. Il a rendu témoignage à la vérité. Et c'est certain, Jean-Baptiste était un des témoins crédibles de Jésus-Christ. C'est lui qui a rendu témoignage à la vérité. Il a annoncé le Messie d'Israël. Et c'était un témoin valable, on peut dire, hein, puisqu'il était lui-même annoncé par le prophète Malachie. Le prophète Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et dans le dernier livre de l'Ancien Testament, dans les derniers versets, c'est tout à la fin, eh bien, Malachie dit, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Pof, l'Ancien Testament s'achève. Ça s'achève là. Alors, eh bien, du fait de cette parole prophétique, hein, qui achève l'Ancien Testament, c'est tout Israël qui était dans l'attente. Il se disait, maintenant on attend qui? L'Élie qui doit venir. Et il y a eu 400 ans de silence où Dieu n'a plus envoyé de prophète. C'était le silence. Et ils étaient dans l'attente de cet Élie. Et le Nouveau Testament, eh bien, il s'ouvre avec Jean-Baptiste, hein, qui était l'Élie en question. Pourquoi Dieu n'a pas dit dans l'Ancien Testament, voici je vous enverrai Jean-Baptiste qui viendra? Parce que en fait Dieu ne cite jamais un nom à l'avance. Il ne fait jamais ça dans toutes les prophéties. Ce qu'il fait par contre, c'est qu'il peut prendre une personne qui ressemble à la personne qui va venir. Et c'est ce qu'il a fait ici. Il a pris Élie comme une image pour dire, voilà, je vais vous envoyer, en gros, quelqu'un semblable à Élie. C'est ça que ça voulait dire. Et c'est intéressant quand on compare Élie et Jean-Baptiste. On ne va pas lire tous les textes, mais simplement deux textes. Dans Deux Rois, il est dit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Acasia dit, c'est Élie le Tishbite. Et si vous prenez l'évangile de Marc, en Marc 1:8, il dit, Jean, donc Jean-Baptiste, avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture autour des reins. Ceinture de cuir, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Donc on retrouve un peu cette idée, et c'est sûr que Élie et Jean-Baptiste, eh bien, c'était deux grands prophètes. D'abord en humilité, ils avaient repoussé toutes les choses de ce monde, parce qu'ils voulaient se focaliser que sur une chose, l'appel qu'ils avaient reçu, l'appel de Dieu en tant que prophète. Et puis ils avaient aussi tous les deux une grande puissance en tant qu'homme de Dieu. Et donc, Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Et après, eh bien, même Jésus l'a dit, quand les disciples lui ont posé la question, il dit oui, c'est l'Élie qui devait venir. Il a confirmé la chose. Et Jean-Baptiste a amené Israël à une attitude de repentance, d'humiliation, de pardon vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis des uns des autres. C'est pour cela qu'il dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, des enfants à leurs pères, parce qu'il a amené la repentance, en fait, le pardon et une bonne attitude de cœur. Et puis finalement, eh bien, Jean-Baptiste a dit, voilà l'agneau de Dieu, voilà le Messie d'Israël. Et c'était un témoignage important. Maintenant, est-ce que Jésus avait vraiment besoin de Jean-Baptiste? Eh bien, même pas. C'est ce qu'il dit, verset 34. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Et Jésus dit clairement, mais je n'ai pas besoin du témoignage de Jean-Baptiste, quoique c'est un témoignage valable, mais je n'ai même pas besoin de son témoignage. Parce que j'ai un témoignage qui est plus grand encore que celui de Jean-Baptiste. Mais pourquoi il parlait de Jean-Baptiste? Le texte nous dit, afin qu'il soit sauvé. Et il leur parlait de Jean-Baptiste parce qu'il savait qu'en Jean-Baptiste, il pouvait reconnaître un vrai prophète. Alors, eh bien, il dit, je vous parle de lui afin que vous soyez sauvés. Ça mérite de s'arrêter et de le souligner ici. C'est très touchant quand même qu'il dit ça. Afin que vous soyez sauvés. Il était en train de parler à qui là? À des gens qui voulaient le tuer, qui cherchaient à lui tendre des pièges. Et lui, il dit, mais je vous dis ça afin que vous soyez sauvés. Dieu veut sauver les hommes, même les hommes qui le haïssent, qui le rejettent, qui le bafouent. Il les aimait, il voulait les sauver. Et ça, c'est un autre témoignage puissant qui montrait que, eh bien, il venait du Père. C'est que Jésus voulait toujours que ces hommes, ennemis, juges, haineux, violents à son égard, soient sauvés. Et Dieu nous montre ici qu'il veut sauver ceux qui ne veulent même pas être sauvés, en fait. Ils rejettent. Mais lui les aime et il veut les sauver. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont rejeté la main qui était tendue du Seigneur, c'est-à-dire la lumière que Dieu leur avait donnée, puisqu'il est dit que Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et c'est vrai que pendant une heure, en fait, ça veut dire un temps très court, ils ont voulu se réjouir, ou ils se sont réjouis auprès de Jean-Baptiste. Peut-être qu'au départ, ils se sont dit, serait-ce l'Élie qui doit venir? Et puis, ils ont commencé à l'écouter. Et peut-être qu'ils ont apprécié au début eh bien, tout ce que Jean-Baptiste pouvait dire. Mais ça a été court. Au bout d'un moment, quand il a commencé à leur dire, repentez-vous, quand il a commencé à dénoncer leurs péchés, alors là, ils ont fait demi-tour et puis ils se sont éloignés de Jean-Baptiste. Et on peut dire qu'ils ont repoussé la lumière qui venait de Dieu, que Dieu leur envoyait. Et Dieu aime les hommes perdus. Et il les aime, même quand ils ne l'aiment pas. Il leur tend la main, alors qu'il lui témoigne de la haine. Et là, dans l'amour que Jésus avait pour eux, eh bien, on voit qu'il venait de Dieu. Il venait du Père. Verset 36. Il dit, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres que je fais, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. » Et là, on a un autre témoignage, c'est les œuvres qui venaient du Père. Et bien sûr, une des choses qui témoignait le plus de Jésus, du fait qu'il venait d'en haut, eh bien, c'était ses œuvres, c'est-à-dire c'était ses miracles, tous les miracles qu'il a pu faire. Et même, on ne comprend pas comment certains pouvaient passer au-dessus et ne pas du tout en tenir compte. Tous les miracles qu'il a fait, c'est incroyable. Par contre, il y en a d'autres qui le relevaient. Par exemple, Nicodème, vous vous souvenez, quand il est arrivé auprès de Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, « Ah, nous savons que tu es un prophète, Rabbi, nous savons que tu es un prophète qui vient de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et c'était qui ? C'était un chef des Juifs. C'était un pharisien. En fait, il était au milieu d'eux. Hein ? Mais lui, il s'est dit, mais il vient de Dieu. Il vient de Dieu. Et même, en fait, il s'est converti après Nicodème. Hein ? Donc, parfois, eh bien, au milieu d'eux, il y en avait un. Mais en même temps, eh bien, il y avait la masse de ces chefs des Juifs qui ne l'ont pas reconnu. Comment ils sont restés indifférents au fait qu'il avait changé l'eau en vin? Ils sont restés indifférents au fait qu'il avait guéri comme ça un jeune homme qui était près de mourir. Ça, c'est dans les versets qui précèdent. Ou bien qu'il avait relevé ce paralytique après des décennies de paralysie. Et c'était que le début des miracles. Après, il y en a eu plein. Ses œuvres témoignaient de son origine divine, mais eux ne voulaient pas le voir. Ils refusaient. Et quand on ne veut pas voir une chose, on ne la voit pas en fait. Hein. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement pour eux. Verset 37. Mais le Père qui m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Et là, sans aucun doute, le plus grand témoignage, c'est celui qui venait du Père lui-même, en fait, de Dieu le Père. Quand le Père a-t-il rendu témoignage à Jésus? On l'avait vu une dernière fois, à son baptême, au début de son ministère. Ils ont entendu cette voix qui venait du ciel, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais Jésus dit, « Vous n'avez jamais entendu sa voix. » Alors pourquoi ? Certainement parce que il n'était plus là. Merci beaucoup Ghislaine. Certainement parce qu'il n'était plus là, en fait, ces Juifs, lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus, en fait. Ils étaient déjà partis. Pourquoi ? Parce qu'ils sont restés une heure avec lui au début, et puis finalement, après, ils sont partis. Et quand Jésus arrive, c'est au terme du ministère de Jean-Baptiste, eux, ils ne sont plus là. Hein. Ils sont déjà partis. Et vous n'avez jamais entendu sa voix. Mais il se peut aussi que Jésus dise « Vous n'avez jamais entendu sa voix parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître qu'il était loin de Dieu. » Et que quand Jésus parlait, c'était la voix du Père. C'était le Père qui était en train de leur dire des choses. « Vous n'avez jamais entendu sa voix parce que vous ne voulez pas l'entendre en fait. Hein. » Et de la même manière, Jésus ajoute « Vous n'avez point vu sa face. » Et là, il parle encore de lui. Quelle est la face, quel est l'aspect, quelle était la manifestation du Père? C'était le Fils. Mais il dit, mais vous n'avez jamais vu sa face, en fait, parce que vous refusez de le voir en moi, en fait. Hein. Et puis il ajoute, et sa parole ne demeure point en vous. Hein. Pourquoi? Parce qu'il il rejetait les paroles de Jésus. Et quand on ne croit pas en celui que le Père a envoyé, on se prive de la voix divine. on se prive de la manifestation du Père, Jésus, et puis on se prive du bonheur de se nourrir de ses paroles, en fait. Hein. Le Père a rendu témoignage au Fils, mais il ne voulait pas l'entendre. Hein. Alors, eh bien, ils ne pouvaient recevoir ce qui venait du Père. Et ce qui est tragique, c'est qu'ils avaient, la Torah, ils avaient la Bible entre les mains. Versets 39 à 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et un autre témoignage, ben c'est les Écritures. Quel poids ! Toutes les Écritures. La Bible parle de Jésus partout. Partout. Bien sûr, dans les Évangiles, c'est évident, c'est son histoire, où on parle directement de lui. Mais déjà dans l'Ancien Testament, vous voyez qu'il est partout. Il est partout comment ? Sous forme d'images. Il y a plein d'images. On pourrait dire qu'il y a des milliers de références à Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Plein d'images, plein de prophéties qui parlent de lui. Et même des théophanies, des apparitions, quand on parle de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Mais c'est Jésus-Christ, hein. Vous le verrez, hein. L'ange de l'Éternel, il est adoré dans l'Ancien Testament. C'est Jésus-Christ qui apparaît, mais sous la forme d'une forme angélique, entre guillemets, hein. Donc, c'est l'ange de l'Éternel. Au-delà même d'une forme angélique, puisque on l'adore. Et c'est pour cela que Jésus dit que les Écritures rendent témoignage de lui. Et les Juifs sonder les Écritures pour avoir la vie éternelle. Est-ce que la vie éternelle est dans les Écritures ? Oui, on peut dire que oui. On peut dire que oui. Mais la vie éternelle, elle ne s'obtient pas en respectant simplement des règles et des lois. Et eux, pour eux, c'était ça, en fait. Hein. Mais ce n'est pas en respectant des règles et des lois d'une manière aveugle qu'on a la vie éternelle. Comment elle s'obtient ? En rencontrant une personne. Jésus. C'est comme ça qu'on obtient la vie éternelle. Et c'était de le rencontrer, de venir à lui, de croire en lui. Donc pour eux, c'était croire dans le Messie. Hein. C'était ça qui était important. Et puis de se repentir, hein, et de croire en lui pour avoir la vie. Et c'est bien d'étudier la Bible. C'est bien de l'apprendre par cœur. C'est bien de savoir où sont tous les livres de la Bible. Mais le plus important, c'est surtout de voir Jésus dans chaque page. Ça, c'est vraiment. Quand on voit, on cherche, on aime Jésus dans les Écritures, quand on a soif de lui, alors là, on reçoit la vie. On reçoit la vie. Et les scribes et les pharisiens sondaient les Écritures. Hein. Ils étaient versés dans les Écritures. Ils mettaient les phylactères autour pour dire la loi, je la sers, je mets la Torah sur mon front. Et c'est bien d'aimer la parole de Dieu. Mais ce qui est incroyable, c'est de la voir si près de soi et de ne pas voir celui dont elle parle, Jésus. C'était ça l'important. Et c'est vraiment primordial, la relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. On peut même avoir des versets sur les murs, avoir la Bible dans le sac, la Bible sous le bras. Mais si on ne connaît pas Jésus, à quoi ça sert ? C'est la relation personnelle avec Jésus, c'est ça qui compte. Le connaître lui, l'entendre nous parler, recevoir ses paroles, c'est ça qui compte réellement. Et Jésus explique où était le problème de ces Juifs versés dans les Écritures. Il dit « Vous ne voulez pas venir à moi » pour avoir la vie. Et le problème, c'était quoi ? C'est qu'ils avaient une volonté qui était rebelle. Une volonté qui s'opposait à la volonté de Dieu. On ne peut pas forcer quelqu'un qui ne veut pas. Et Dieu ne voulait pas les forcer à l'aimer. Vous ne voulez pas m'aimer ? Voilà. Dieu ne force personne à l'aimer. Et après avoir démontré que Jésus était digne de foi, digne de confiance, à cause des nombreux témoignages en sa faveur, donc le témoignage de Jean, le témoignage de l'amour de Dieu en lui, le témoignage des œuvres du Père, le témoignage du Père lui-même, le témoignage des Écritures, maintenant Jésus va révéler le visage en fait de ces Juifs. Qui étaient-ils? Ils passaient pour des gens qui aiment Dieu, mais qui étaient-ils vraiment? Et j'aimerais qu'on voit dans la suite le contraste qu'il y a entre Jésus et ces Juifs. Excusez-moi. Alors on va voir le contraste entre Jésus et ces Juifs. Regardez verset 41, il dit « Je ne tire pas ma gloire des hommes. » Je ne tire pas ma gloire des hommes. Et notre Seigneur n'attendait rien des hommes. Ça ne comptait pas pour lui de recevoir des louanges des hommes. L'important, c'était surtout plaire à son Dieu, plaire au Père. Et quand vous regardez ça, mais quel contraste avec les Juifs. Regardez maintenant le verset 44. Il dit « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Et il semble que le Sanhédrin, donc la famille des scribes, les docteurs de la loi, étaient liés les uns aux autres par la flatterie et par la reconnaissance mutuelle. En fait, ils se jetaient des fleurs, voilà, ils se glorifiaient entre eux. Qu'est-ce qui comptait pour eux? Eh bien, d'être loués, admirés pour leur grande connaissance des Écritures. Qu'est-ce qui comptait pour eux? Eh bien, c'était la piété qui était manifestée ostensiblement au coin des rues. Ils étaient en train de prier comme ça. C'est ce que Jésus va dénoncer un peu plus tard. Ou bien c'était leur grande générosité. Voilà, qu'on entende les pièces tomber dans le tronc. Ça, c'était ce qui comptait pour eux. Et ils étaient devenus aveugles sur leur propre péché. En fait, ils ne voyaient plus l'orgueil qui était en eux. Et ils se nourrissaient de la gloire de leurs semblables. Voilà. Flattez-moi. Et quel contraste. Jésus, lui, eh bien, il n'avait aucun souci de ce qu'on pensait de lui. Vraiment, il ne tirait sa gloire que de Dieu seul. Et il n'y a que Dieu qui peut donner la gloire. C'est de lui que vient la gloire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui peut louer et élever. Il n'y a que lui qui peut blâmer et abaisser aussi. Ensuite, deuxième contraste entre eux et Jésus, verset 42, il dit « Mais je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. » Et Jésus les aimait. Lui, il les aimait vraiment. Mais eux, eh bien, ils n'avaient pas en eux l'amour de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ne pas avoir en eux l'amour de Dieu? Pourquoi il dit cela? Certainement pour trois choses. D'abord, parce qu'ils n'aimaient pas le peuple de Dieu. Ces chefs religieux n'aimaient pas le peuple de Dieu. Par exemple, Jésus va les accuser de charger des lourds fardeaux sur leurs épaules et de ne pas toucher eux-mêmes du doigt. Ou bien, il va aussi finalement dénoncer ces Juifs qui grondaient en quelque sorte ceux qui venaient se faire guérir le jour du sabbat. Donc voilà, c'était des gens dans la souffrance. Et ils sont guéris. Et comment ça? Et il y a d'autres jours pour venir se faire guérir. En fait, ils ne les aimaient pas. Plutôt que se réjouir, vous êtes guéri, tu es guéri, c'est merveilleux. Non, ils ne se réjouissaient pas. Et donc, ils n'aimaient pas le peuple de Dieu. Ensuite, eh bien sûr, ils n'aimaient pas le Messie d'Israël, puisqu'ils le rejetaient. Ça, c'est évident. Et puisqu'ils n'aimaient pas le Messie d'Israël, ils n'aimaient pas Dieu le Père. Voilà, ils n'avaient pas l'amour de Dieu le Père en eux, ils ne le pratiquaient pas, ils ne le connaissaient pas. Ensuite, un troisième contraste, regardez le verset 43. Verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Et ces hommes, on peut dire que préférer ceux qui se recommandaient eux-mêmes à celui qui était recommandé par le Père. On l'a lu tout à l'heure, hein, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Mais le problème, c'est qu'ils n'acceptaient pas celui qui était recommandé par le Père. Eux, eh bien, ils n'avaient pas de problème à accepter quelqu'un qui n'avait aucune reconnaissance du Père, qui venait pas du tout du Père. Là, ils l'acceptaient, c'était pas un problème. Un dernier contraste, on a lu tout à l'heure que Jésus a dit « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et peut-être on peut encore souligner ça. Eh bien, voilà, Jésus cherchait la volonté de Dieu, eux ne cherchaient pas du tout la volonté de Dieu. Ça, c'est clair. C'est un autre contraste entre les deux. Et donc, c'est tragique qu'en dépit de tous ces témoignages qui criaient « Jésus vient du Père », ils ne voulaient pas le voir et jusqu'au bout, ils se sont obstinés dans leur certitude. Alors Jésus va leur citer un dernier témoin pour leur prouver qu'il venait d'en haut. Et ce dernier témoignage, ce n'est pas le moindre, ce n'est pas le plus petit. Vous allez voir, hein. C'est le témoignage de Moïse. Qui est Moïse ? Moïse, c'est celui qui a écrit le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. C'est la Torah en fait, hein. Et quand on pense à la Torah, mais qu'est-ce que c'est ? C'est le fondement du judaïsme. C'est vraiment, c'est la pierre hein, sur laquelle repose le judaïsme, parce qu'on y trouve toute l'histoire de la création de la terre, de la formation des peuples, mais aussi toute l'histoire du peuple juif, de sa naissance jusqu'à ses coutumes les plus anciennes. On y trouve aussi toutes les lois que Dieu a données pour plaire. Pour lui plaire, hein, pour lui être agréable. Tout a été écrit par Moïse. Et donc, pour Moïse, ben, il y avait Dieu, pardon, pour les Juifs, il y avait Dieu et Moïse. Voilà. Après Dieu, c'est Moïse. C'est clair que c'est lui qui est le plus important. C'était l'homme de Dieu par excellence, leur père en quelque sorte. On pourrait même dire leur sauveur. C'était leur sauveur. Vraiment, vraiment. Pourquoi ? Parce que par Moïse, ils avaient reçu le moyen d'accéder au pardon par les sacrifices, par les lois, par toutes ces choses. Regardez ce que dit Jésus, versets 45 et 47. « Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. » Donc Moïse était le sauveur. C'était leur sauveur. Si bien, ben, ils n'avaient pas besoin d'un autre sauveur. Ils avaient mis leur espérance dans tout ce que Moïse avait dit. Et on peut sonder la Bible et néanmoins ne pas voir le Sauveur Jésus-Christ. On peut par exemple lire la Bible aussi, hein, lire toute la Bible, lire le Nouveau Testament. Vous lisez le Nouveau Testament et puis vous voyez qu'une liste de règles. Fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça. Et voilà, vous dites, ah ben, il faut que je fasse ça en fait, hein, il faut que j'obéisse à ces règles. C'est ce qui est écrit. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut aborder la Bible. Ce n'est pas comme ça qu'il faut l'aborder. L'important, je vous l'ai dit, c'est surtout de le connaître, d'avoir une relation avec lui. Donc c'est connaître le vrai Sauveur, le Sauveur Jésus-Christ. C'est se réconcilier avec lui et entrer dans cette relation avec lui. Pourquoi ? Parce que c'est de cette relation que découlera le désir de savoir « Mais qu'est-ce qui plaît à mon Dieu ?» Ne pas faire ça et faire ci. Et puis, pas faire ça et choisir ça. Et comment vais-je avoir la force de faire ce qu'il me demande ? Mais justement, de la relation que j'ai avec lui. Si j'ai cette relation, ben de lui, je reçois la force et je fais ce qu'il me demande. Et c'est pas « Fais pas ci, fais pas ça !» Non, c'est « J'aime mon Dieu m'aime » et il fait couler en moi un désir d'obéissance, un désir de lui plaire, un désir de le suivre. Et là, ben, c'est complètement différent. Si vous êtes sur le « Fais pas ci, fais pas ça », eh bien là, vous êtes dans la religion, vous êtes dans le légalisme. C'est « Oh, il ne faut pas que je le fasse parce que je vais déplaire à Dieu. Oh, » et c'est pas « Non, j'ai envie de plaire à mon Seigneur. » Voyez la nuance, hein, c'est plus pareil. Et ces juifs, eh bien, ils étaient plutôt dans le « fais pas ci, fais pas ça hein, ». Très... Et même en rajoutant des lois, ça ne suffisait même pas ce que Dieu avait dit. Et ce qui est triste, c'est que leur sauveur, Moïse, témoignait du Fils de Dieu, du vrai sauveur. Moïse pointait le doigt vers Jésus. Verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, mais parce qu'il a écrit à mon sujet, car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Et là, on se dit, mais en fait, ils faisaient le tri, ces Juifs, dans les Écritures. Ils faisaient le tri. D'un côté, ils avaient mis en lui leur espérance, et de l'autre, eh bien, ils ne croyaient pas à tous les écrits de Moïse. Parce que curieusement, ils savaient que Moïse parlait du Messie d'Israël qui allait venir. Il savait lui-même pourquoi ? Parce que même les gens du peuple, ceux qui n'étaient pas les rabbins et les docteurs de la loi, ils savaient que Moïse parlait de Jésus en fait. Hein. Regardez, je prends juste une référence vite fait, c'est Jean 1, verset 45, où il est dit « Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » C'était une évidence. Une évidence. Même le peuple, même monsieur tout le monde savait que Moïse avait parlé de lui. Alors pourquoi ne l'acceptait-il pas ? Il n'y a qu'une réponse, c'est qu'en fait il n'aimait pas Dieu. Il n'aimait pas vraiment Dieu, il ne le connaissait pas. Bien qu'ils avaient des postes de religieux, ils étaient étrangers à la vie de Dieu. Alors, eh bien, ils se sont condamnés eux-mêmes. Est-ce que Jésus était digne de foi ? Oui, Jésus était digne de foi. 1000 fois, il était digne de foi. Il y avait suffisamment d'éléments pour qu'il puisse croire, venir à lui et recevoir la vie. Mais il ne voulait pas venir à lui. C'est clairement écrit, hein ? Alors, c'est vrai qu'il y a une part de mystère. Comment ça se fait que certains veulent et d'autres ne veulent pas, hein ? On se dit, mais pourquoi, Seigneur ? Mais ce qui est certain, c'est que Dieu fait appel à la volonté de l'homme. Il cherche la volonté de l'homme. Qui veut venir à moi ? Et c'est des invitations. Qui veut venir à moi ? Et Dieu donne des preuves convaincantes de ce qu'il est. Il donne des témoignages crédibles. Mais ensuite, eh bien, c'est à chacun de prendre une décision personnelle. Oui, je veux venir à lui pour avoir la vie. Ou non. Non, ça va. Pas besoin de lui. Pas besoin de lui. Je suis plus heureux sans lui. Et puis voilà. Ça, c'est la part de liberté qui revient à chacun. Dieu ne force personne à l'aimer. Si on veut pas le connaître, si on veut pas le rencontrer lui, eh bien, il nous laisse libre. Mais il nous dit aussi ce qui arrivera. Est-ce que vous êtes venu à lui ? Est-ce que vous voulez venir à lui ? Ça, c'est la grande question. On va avoir un moment de prière, si vous voulez rendre grâce.